Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Time Sport ce soir toujours là, 20h, 21h avec toute l'équipe qui m'accompagnera. Bon, je me sens un petit peu seul en ce moment, mais ça ne fait rien. En tout cas, il y a la réalisation, la personne de Yanis et son acolyte Giovanni, second réalisateur, qui nous fait le plaisir de nous accompagner avant de retrouver Vanessa ce soir, 22h minuit. Après Adil Farkan, les informés, 19h, 20h, c'est donc votre quotidienne sportive. Et au menu de cette émission, ce vendredi 29 octobre 2021, on parlera Mbappé, tête d'affiche de Paris 2024. Qu'en pensez-vous? On verra avec les auditrices, les auditeurs de Beurre FM, Peter Boz, à l'OL, un bilan assez contrasté. Eh oui, les Guns qui reprennent un peu du pouvoir et du poil de la bête en disant que oui, on s'attendait à un chouïade au-dessus. On va voir, on va aborder le sujet. C'est évident, sans oublier aussi des absents du côté du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui rencontre ce soir en Ligue 1 Uber Eats les fameux Lillois. Et oui, toujours des absents. L'infirmerie fait assez mal. Et on ira aussi du côté du Napoli. Allez, enfin, peut-être la bonne pour ce Scudetto cette saison. Vous restez avec nous. Nous, on démarre avec le JT Sport de Jason. C'est parti, GoGo Time Sport.
Time Sport. Bonjour à tous, on démarre ce JT du vendredi par une info concernant encore le classique OM-PSG. 5 stadiers auraient été renvoyés par leur entreprise de sécurité privée suite à l'intrusion du jeune supporter sur la pelouse du Vélodrome. Ce supporter, d'ailleurs mineur et fan de Lionel Messi, n'aurait écopé que d'un simple rappel à la loi. Raphaël Varane, touché en finale de Ligue des Nations face à l'Espagne, a repris l'entraînement collectif avec Manchester United et pourrait même démarrer la rencontre aux côtés de Harry Maguire face à Tottenham samedi soir en Première Ligue. A noter l'absence également de Paul Pogba, suspendu suite à son carton rouge reçu face à Liverpool dimanche dernier. Et enfin, on termine avec du basket en NBA et Chicago et Golden State qui ne sont plus invaincus. En effet, les Bulls se sont inclinés 103 à 104 face à New York et les Warriors, quant à eux, ont perdu face à Memphis 101 à 104. C'est tout pour moi ce soir en vous souhaitant une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport.
Et oui, voilà. Ah ben, aussi à Jason. Une belle soirée, Jason. Toujours là avec nous, tout comme la rédaction phare de Beurre FM. Avec moi pour m'accompagner ce soir. On aura, entre autres, Alison, notre consultante, Mourad, sans oublier le coach Tollet, et Louis-Marie. Comment ça va, Louis-Marie?
Bah écoute, c'est assez particulier d'être avec toi sur ce plateau. On est un peu en amoureux avec Bilal ce soir.
On va se confesser. Allez, avant l'émission de Vanessa.
Ah non, mais c'est ça, ça va être sympa.
Ouais. On va aborder le premier sujet de cette émission concernant Kylian Mbappé.
Time Sport, le sujet des sociaux.
Il veut vivre, lui aussi, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Louis-Marie, eh oui, Kylian Mbappé.
Bah, c'est absolument pas une surprise.
Ouais.
Ça fait des années
de ce projet, en tout cas.
Mais ça fait longtemps.
C'est titanesque.
Là, on parle de Paris 2024, mais il voulait déjà faire Tokyo 2020. Et c'était un vrai sujet au PSG qui voulait pas le lâcher. Et malgré... Ils s'en sont sortis, le PSG, parce qu'il y a eu le report des JO, ils ont pu l'empêcher d'y aller. Mais concrètement, il a cette envie depuis longtemps, Kylian. Il a bien compris, il a le sens de son sport. C'est un joueur qui voit la dimension internationale du sport et qui voit l'importance du palmarès. Il me fait penser un peu à un Roger Federer de cet angle-là. C'est quelqu'un qui voit l'importance d'être sur tous les terrains. Et lui, même si je suis le premier à critiquer le football aux JO, parce que pour moi, ils ont rien à y faire... C'est quelqu'un qui a compris que, même si ce n'était pas un très grand titre, c'était important de l'avoir. Et du coup, bah, bien évidemment qu'il sera là en Paris 2024, parce que surtout, non seulement c'est les JO, mais en plus, c'est à la maison, c'est la région parisienne,
c'est
un mec de la région parisienne,
Demandez. Il
ne peut que être là, et je vous prie de croire que ça va être un vrai enjeu de son prochain contrat, quel que soit le club qui le re-signera, ou le signera l'année prochaine. Ça sera inclus dans son contrat qu'il ne pourra pas l'empêcher de faire les Jeux 2024. C'est une certitude.
Eh oui, c'est son souhait en tout cas. Tout comme Mourad, de le voir sur ses pelouses, voilà, de nos terrains français, durant ces JO d'été Paris 2024. Bonsoir Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, j'entendais Louis-Marie s'exprimer sur...
Kylian Mbappé.
Sur Kylian Mbappé, effectivement, et les JO 2024, je pense que c'est... tout a été orchestré. Il a été préparé, le discours a été rédigé.
Ça fait 4 ans qu'il le prépare.
C'est la tête de gondole, non seulement des JO 2024, mais aussi on sait que le village olympique est dans le 93, donc du coup c'est le symbole de ces JO.
Ouais.
On connaît tous l'antagonisme qu'il y a entre le football et les JO. On pourrait parler du débat qui existe depuis des lustres, mais aujourd'hui, le football regarde les Jeux Olympiques du hublot, d'accord, avec toute la manne financière que ça génère, etc., etc. Donc voilà, donc naturellement, Mbappé, c'est un choix politique. Il y a l'intérêt national, entre guillemets, qui se cache derrière tout ça. Donc, bien sûr que personne ne pourra, même lui, il l'a dit, hein, de toute façon, quitte à l'inclure,
ouais.
Quitte à inclure cette clause dans un contrat lors de son futur club au Paris Saint-Germain. De toute façon, dans 1000 jours, il sera plus au Paris Saint-Germain. Enfin, moi, c'est ce que je pense.
Ouais. Moi, je pense que dans moins de 300.
Donc voilà. Là, je suis très, ça, c'est un scénario pessimiste quand je dis ça. Tu vois ce que je veux dire?
Pourquoi pessimiste?
Ben, je me dis que, ben, pessimiste pour les supporters pas qu'il du Paris reste Saint-Germain. Ben, pour les supporters du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donc, très bien. Là, ça ravive un peu la flamme, on va dire, pour sans faire de jeu de mots, par rapport aux Jeux Olympiques, le fait de que ce soit Kylian Mbappé qui soit en tête de gondole, il vient réconcilier le foot avec les Jeux Olympiques, sachant que le football masculin a toujours été mis de côté parce que c'est un monstre, on va dire, c'est un monstre à part en fait, le football.
Bah,
donc, du coup, c'est l'occasion, c'est le meilleur atout marketing.
Selon toi.
Pour Emmanuel Macron, pour l'État français, pour les JO 2024.
Ouais, c'est loin, 2024, Mourad, c'est loin.
2024, c'est demain. Après,
du président Macron.
C'est que Kylian Mbappé, là, on a vu Gignac, il était isolé. Si c'est que Kylian Mbappé tout seul, ça ne sera pas d'une grande utilité. Par contre, il faudrait.
Non, mais l'équipe, elle sera très forte. On n'en doute pas. L'équipe, elle sera au max de ce qu'elle peut être. Ça me fait penser un petit peu.
Les clubs de Ligue 1 vont jouer aussi.
Mais ils n'auront pas le choix. Là, pour le coup, international.
C'est politique.
Là, ils n'auront pas le choix, ils seront obligés de la fermer et d'envoyer leurs joueurs. Il n'y aura pas de débat. Et de toute façon, ils auraient eu beaucoup plus de difficultés à empêcher leurs joueurs de venir en 2020 comme c'était prévu, parce qu'il y avait une fenêtre quand même FIFA qui était anticipée, qui n'existait plus en 2021. Donc c'est pour ça qu'ils ont pu retenir leurs joueurs autant. Donc en 2024, ils ne pourront rien retenir du tout. Mais après, bon, si on doit élargir un peu le débat, Kylian au foot, au JO, c'est très bien, ça va faire un peu d'éclairage sur les JO. Bon, moi, je trouve que le foot a rien à faire aux JO. Et malgré tout, même Neymar au Brésil en 2016 n'a pas réussi à en faire un grand événement. Moi, je trouve, de ma fenêtre, le Brésil, 2016 à Rio, ça n'a pas été grandiose.
Ça aurait dû être le virage, en fait. Au Brésil, relancer le football avec Neymar en tête de gondole.
Et tu parles relancer, mais lancer le football. Moi, je n'ai jamais connu un grand football aux JO. Alors, le seul souvenir que j'ai de JO, honnêtement, grand,
96,
c'est Nigeria.
Aux
États-Unis, Atlanta.
Il y a certaines nations qui ont intérêt, justement, à participer aux Jeux Olympiques.
Mais c'est les petites nations. C'est les petites nations.
À lancer des joueurs, à lancer des stars. On a vu Ronaldinho participer aux JO. Le Nigeria, le Cameroun.
Le Maria.
Donc, il y a des équipes africaines qui ont intérêt d'avoir cette vitrine-là, parce que on parlait de la Coupe du Monde.
Sur les derniers.
Comme par hasard, la Coupe du Monde est alignée, justement, sur le calendrier des Jeux Olympiques tous les 4 ans. C'est parce que, justement, le football a été mis de côté pendant des années. Les organisateurs, tout ce qui est CIO, les comités d'organisation, regardaient le football comme.
Comme
un sport trop populaire, alors que les JO, c'est les sports d'élite, c'est la bourgeoisie. Alors moi, il est regardé un peu avec dédain. C'était le débat qu'il y a eu entre
Honnêtement, je pense pas que ça soit les JO qui rejette le football, mais c'est plutôt le football qui n'a pas besoin des JO. Et donc,
au départ, le football avait besoin des JO. Le football le football n'est pas né en tant que monstre financier dès le départ.
Enfin, c'est le premier sport professionnel,
peut-être, à certains moments. Alors, je vais pas faire mon historien ici, mais
c'est le premier sport professionnel.
Excuse-moi, vas-y, on va voir. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Prenons un contexte.
Laisse-les tranquilles,
les
poissons rouges.
Les JO n'auraient pas été un tremplin magnifique pour certains pays en voie de décolonisation ou en voie d'indépendance. Les JO n'ont jamais rempli ce rôle-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc le football a toujours regardé avec le JO avec dédain le football. Maintenant, le football, comme je l'ai dit d'entrée, ils regardent les JO des hublots, ils n'en ont plus besoin. Il y a une manne financière exceptionnelle. Ils n'en ont pas besoin, je suis d'accord. Mais c'est les JO, c'est les politiques qui en ont besoin. Mettre Kylian Mbappé en tête de gondole, Neymar, pour le relancer, il y a le football féminin, parce que c'est plus attractif.
Non, mais
aujourd'hui,
c'est pour ça ce que je te dis.
On n'en parle même plus.
Tu viens de soulever un bon point. Le football féminin en a besoin, et il y a toujours des grosses équipes, et c'est toujours des superbes performances. C'est toujours des événements, le foot féminin aux JO, pardon, je vais y arriver. Mais pour moi, le football masculin n'a pas véritablement sa place aux JO, parce que au-delà de toutes les autres considérations qu'on peut avoir sur qui a besoin de qui et pourquoi, moi c'est surtout une histoire de format qui me convient pas.
Ouais.
Alors parce que
quel format?
Le format de compétition, l'organisation du tournoi, j'entends. Parce que concrètement, le football il doit commencer avant, ça joue dans plusieurs stades, dans plusieurs villes. T'as pas cet événement dans la ville. Moi je trouve que par exemple le rugby a fait quelque chose de beaucoup plus intelligent, c'est-à-dire mettre en vitrine non pas le rugby à 15 qui est sa grosse machine avec la Rugby World Cup qui marche très bien.
Ouais.
Mais comme ça ne marche pas sur 15 jours, les JO, le rugby à 15, ils ont mis le rugby à 7 pour faire une vitrine. Ah ouais. Moi, si j'avais été
ça marche pas mal. Hein.
Non, mais c'est
ce qui s'est passé.
C'est intéressant,
le
rugby.
Non, mais c'est justement ce que j'ai dit.
Pourquoi? Je sais que toi, t'es pour que Mbappé se présente aux 100 mètres ou aux 200 mètres.
Non, mais laisse-moi finir mon point avant toi.
Vas-y.
Moi, ce que j'aurais mis, plutôt que mettre le football où t'as pas la meilleure équipe de chaque pays, où t'as pas les meilleurs athlètes, j'aurais mis le futsal ou le beach soccer, un autre format de foot où t'aurais eu les stars du foot au jeu. Et j'aurais préféré ça. Après, maintenant,
en fait, c'est un alignement des planètes. Là, c'est organisé en France. Bah, il faut que les clubs de Ligue 1 jouent le jeu. À Tokyo,
les planètes sont alignées, Mourad. 1924-2024, un siècle après. Hein. Ouais. C'est tout aligné là.
Ah oui, non, bien sûr, là, il y a un alignement des planètes incroyable là.
Mais voilà. En 2028, tu reviendras aux États-Unis avec une équipe en bois.
C'est les 100 ans. Il y a les clubs de Ligue 1 qui vont jouer le jeu, qui vont libérer leurs joueurs. Il y a les gros joueurs français qui vont éventuellement, ben là, c'est l'international, qui vont se libérer.
Après, tu n'auras que 3 de plus de 23, hein, n'oublions pas. Hein. Donc, tu n'auras plus que 2 avec Mbappé qui aura plus de 23.
Allez, Kylian Mbappé avec Alisson aussi, notre consultante qui nous a rejoint. Justement, on va voir les Jeux Olympiques 2024 avec toi, Alisson.
Effectivement, j'entendais un peu les débats. Kylian Mbappé, il sera. C'est une condition sine qua non, tout ça on le sait. Kylian Mbappé, c'est un peu l'étendard français et surtout à l'international. On sait exactement le retentissement qu'ont les Jeux Olympiques. Et quant au format, moi je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que le football, contrairement à ce que Lumaré pense, a sa place aux Jeux Olympiques. Alors oui, ça a des défauts, oui, c'est des jeunes, etc. Mais je pense que c'est une compétition qui reste quand même importante. Et surtout, le titre, c'est un titre quand même valeureux. Voilà, on a des jeunes, on a un mélange aussi d'expérience dans cette coupe. Et voilà, ça projette, entre guillemets, les personnes pour d'autres compétitions internationales. Je pense que la place du football y est. Est-ce que c'est la même place du football masculin que quand on est au mondial? Non, certainement pas. Est-ce que ça l'apprendra un jour? Non, certainement pas non plus.
Et mais il faut ravifier la flamme aussi.
Non, mais
des JO.
Ça a sa place.
Non, mais
j'entends tout à fait ce que vous dites. Moi, au-delà du format qui est compliqué, moi je trouve même que le format de jeu de 2 fois 45 minutes est compliqué au jeu. Moi quand je regarde les jeux, ça dure 15 jours, c'est hyper intense, c'est très court.
Ouais.
J'aime bien passer d'un sport à l'autre, un coup voir un escrimeur, un petit du hand, du mal, et un peu voir des choses que je vois pas toujours. Un match de foot, ça prend quand même une bonne partie de mon audience de la journée.
Non, je pense que t'es plus fan de la voix de Nelson Montfort que.
On passe le bonsoir à Nelson Montfort.
C'est pas ses interviews.
Basculons sur l'athlétisme,
Moi, c'est ça que j'aime bien. Un match de foot, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime pas voir de manière morcelée. Et au jeu, tu vas voir un extrait par-ci, par-là.
Et moi, dans ce cas-là, c'est pas
alors, allez,
ça. Les sports.
Il y a très peu de sports qui durent, dont les matchs durent une heure et demie au jeu. Il n'y en a pas d'autres.
Non,
c'est
mais
seul.
Non, mais peu importe, des fois, alors, on a le.
Comme le tennis ne marche pas, attention.
Pour moi, le tennis marche pas. Le marathon. Le saut à la perche en même temps. On a le 100 mètres. Dans ce cas-là, c'est quoi? Il faut faire quoi? Il faut faire un jour le marathon, un jour le 400 mètres.
C'est pas du tout ce que j'ai dit.
Il faut faire des versions
et ça nous prend 5
ans. Juste qu'il y a des sports qui, pour moi, marchent moins bien et sont moins compatibles avec le format des jeux qui est une succession de grands moments.
J'ai fait un petit parallèle par rapport à ce que tu dis.
Moi, d'accord par exemple, avec lui.
Un combat de judo qui dure 5 minutes, la première minute pour moi me paraît d'une éternité. Quand ils se tiennent par le kimono et que ça dure 1 minute 30, 2 minutes, pour moi ça me paraît une éternité. Moi, un match d'une mi-temps 45 minutes dans le cadre du football, parce que je suis un adepte du football, ça me dérange pas du tout.
Mais elle est là la beauté des jeux aussi.
Oui, mais voilà,
elle est là la beauté des jeux, c'est de pouvoir switcher en même temps sur le football, regarder l'équipe du Brésil jouer, ensuite changer un petit peu et regarder une course du Usain Bolt et pourquoi pas le rugby à 7. Elle est là justement la magie des Jeux Olympiques, c'est de voir des sports qu'on ne voit pas.
Non, mais d'accord, mais il y a quand même un vrai problème. Pour moi, les Jeux, c'est quand même la compétition ultime, la plus grande du monde avec la
Nouvelle. Les Jeux Olympiques,
non, mais la compétition ultime, ce sont les Jeux. Et le problème au football, c'est que, à part ponctuellement, comme Mbappé ou Neymar de temps en temps, les meilleurs joueurs n'y sont pas, c'est quand même un problème. Pour moi, c'est la compétition ultime d'un sport. Tu verras jamais. Même au basket, maintenant, il y a les pros. Les meilleurs joueurs américains y sont quasiment. À chaque fois.
Pas toujours.
Ah bah regarde, au JO tout le temps.
La Dream Team, c'est au sens européen du terme. C'est pas la Dream Team au sens US du terme.
Aux US, pas tout le temps.
En 2012, peut-être.
La réalisation aussi, elle est pas d'accord.
Bah regardez quand même les compétitions.
Le coach
Olé, alors. C'est encore plus faux ces dernières années.
Bah regarde qui avait 21.
Alors. Je viens d'arriver, c'est quoi le problème là?
Justement. Le problème, c'est que lui,
Marie.
Ah bah non, tu peux pas dire ça,
c'est lui, Marie. Là, on dit que. Kylian Mbappé réconcilie les JO et le football.
Oui.
Bon, même si moi je pense qu'il devrait d'abord réconcilier Neymar avec le football avant les JO, mais là en gros, c'est ça le débat.
Quand même. On va en parler du Paris Saint-Germain, ça c'est promis.
Oui.
Ça te laisse bouche bée. Bon, ok, on aura compris.
Pour toi, tout est normal.
On a compris.
Kylian Mbappé, tête de gondole, tout va bien. Alors que le football JO,
Paris 2024.
Pendant des années.
Le coach Tolé, il en pense quoi?
Je vois pas où est le problème.
Moi non plus, je vois pas le problème.
Ouais. Marie, il y a un souci.
Pourquoi?
Ah non, moi je suis très content que Mbappé vienne au jeu. Pour moi, le football n'a pas sa place au jeu.
Moral, c'est pas bien.
Lui, Marie, il veut Sean Garnier au milieu du Stade de France qu'on le filme pendant. C'est le football, ça reste le football.
Soit.
C'est un sport numéro un.
Même dans ce cas-là, si on met le JO au foot. Le foot au JO, pardon, on met les meilleurs joueurs. Pas cette équipe où on met les jeunes.
Mais ça tombe sur des.
C'est ce qui me pose problème.
Ça tombe sur des
plans. Star planétaire, en tout cas. Kylian Mbappé.
C'est pas possible.
Il y a déjà les jeunes, c'est pas une grande compétition. Okay. On est bien d'accord.
Il y a déjà la Ligue des Champions.
Oui, Mourad.
Tu viens de le dire. Les grandes compétitions ne sont pas au jeu.
Non, mais la réalité, c'est que tu as pas demandé à des joueurs d'avoir disputé le mondial. Disputé les JO.
Mais on est d'accord que les jeux passent donc après. Mais ça devrait pas passer après les jeux. C'est ça le problème. Pour moi, les jeux ne devraient passer après aucune autre compétition. Donc, si on considère dans le football que ça n'est pas la compétition prioritaire,
il ne devrait pas passer. Donner des leçons de morale au football, sachant que les gens l'ont donné pendant des années.
D'un côté,
et la culture n'est pas la même.
Oui, Marie n'a pas tort d'un côté.
Dans l'athlétisme, on ne.
Oui, Alisson.
C'est pas grave si on appelle les meilleurs joueurs.
Oui, Alisson, on poursuit rapidement avant la pause. On écoute Alisson rapidement, le coach Tolé.
Non, mais surtout, il faut comprendre que la culture n'est pas la même. On n'accorde pas la même importance pour les JO, par exemple, en athlétisme que dans le football.
Mais d'accord, c'est bien le problème.
Et alors, ça n'empêche pas que le football.
C'est bien, mon
coach Tolé, on termine avec ton rapide.
Non mais Alisson a tout dit, c'est-à-dire que
j'étais d'accord avec elle.
Athlète ne gère pas sa carrière comme un footballeur. Enfin, c'est pas du tout le même. Enfin, c'est tout. Il y a même pas de sujet en fait.
Okay. Allez, on va marquer une courte pause avant de revenir avec les Lyonnais aussi le Paris Saint-Germain. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Allez, de retour sur l'antenne de Beurre FM jusqu'à 21h, toujours en compagnie d'Alisson, notre consultante, Mourad, le coach Tolé, sans oublier Louis-Marie. Allez, on prend la direction de la vallée du Rhône.
Time Sport. Le duel.
Et oui, et quand on descend dans le sud de la France, ça me fait penser à Idriss. Idriss et toute sa famille. Voilà, ça me fait plaisir. Un petit clin d'œil aussi à Riyad, fan de Pas de Patrouille. Voilà, ça c'est une petite dédicace. Oui, à Pas de Patrouille, il fait des ravages, hein, vous savez.
Bien sûr.
Hein, c'est sorti en film, mais voilà quoi. Je sais pas si on pourra en parler.
C'est meilleur que ça qu'un staff de club de Ligue 1.
Hein. Ah bah. En tout cas, pour tout, en tout cas, voilà.
Il y a une vraie coordination que pas dans tous les staffs.
N'oubliez pas, on est toujours en live jusqu'à 21h sur l'antenne de Beurre FM. Chers auditrices et auditeurs, toujours de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre avant Halloween et le week-end bonbon. Voilà, c'est ça, Alisson. Mais on va s'attarder, c'est promis, sur le club rhodanien qu'est Lyon.
Time Sport.
Eh oui, Peter Bosz, justement, à l'Olympique Lyonnais, peut-être un bilan assez contrasté. Eh oui, le coach Tolé. Là, on ne sait pas quoi dire.
Après, quand tu mets un projet de jeu en place, faut pas s'attendre tout de suite à ce qu'il y ait des éclairs. On a souvent tendance à faire des bilans, alors que le mec vient d'arriver ou la coach vient d'arriver, ça demande du temps, ça demande une adaptation. Lyon, ça fait depuis plusieurs saisons qu'on est en train de reconstruire. Tu gardes un effectif de qualité, mais j'en ai le sentiment que depuis une saison et demie, ça change. Il a commencé plutôt difficilement, c'est vrai, mais depuis quelques matchs, tu te rends compte que t'as un Lyon quand même qui est plutôt séduisant. Son projet de jeu prendra forme surtout là et dans la deuxième partie de saison. Mais attention, enfin le championnat est long. Mais moi, de ce que propose Lyon jusqu'à présent, même si tout n'est pas parfait, c'est quand même plutôt encourageant. Il va falloir s'en méfier.
Sur le plan comptable, alors, c'est le pire depuis 2011. Hein. Donc moi, il y a beaucoup de beaucoup de louanges vis-à-vis de Peter Bosz. Moi, sur le plan comptable, c'est le pire bilan depuis 2011. Il y a eu des matchs nuls à domicile, il y a eu des défaites foudroyantes à l'extérieur, notamment je pense au.
Il y en a une, deux défaites à Angers. Il n'y en a pas beaucoup.
Quant à l'effectif de Lyon, mais après,
c'était le début de championnat.
Sur le plan du jeu, on sent qu'il essaie de révolutionner certaines choses. Il a mis en place les fondations, certaines règles, les parcours en français, il a privé les téléphones portables à certains joueurs.
L'amende à Paqueta était intelligente.
La gestion du cachère qui, et c'est toujours mieux que Rudy Garcia. Là, il y a de l'autocritique. À l'époque, avec Rudy Garcia, c'était toujours la faute de l'arbitre. Là, il y a une remise en question à la fois de son poste de manager, à la fois des joueurs. Donc, on sent qu'il y a un plan de jeu. On sent qu'il y a un plan sur la saison. Donc, maintenant, il faut le laisser travailler, tout simplement.
Alors,
mais en tout cas, il y a les bonnes fondations et on part sur de bonnes bases.
Après, tu parles comptablement. Comptablement en championnat, oui, il y a un peu de retard.
Mais ils sont 9e.
Mais 9e n'a pas beaucoup de points, donc c'est pas rédhibitoire. Le championnat est encore long. Là où il s'est pas acheté une crise, en fait, parce qu'il aurait ce même nombre de points en championnat, dans d'autres conditions, ça pourrait mal se passer. La réalité, c'est que son début de Coupe d'Europe est très réussi et ça sauve un peu son bilan. Et que concrètement,
je pense. De quelle Coupe d'Europe? La Ligue des Champions ou de l'Europa League?
Peu importe. Je pense que cette année pour le.
C'est un club qui est en refondation.
Mais non, mais pour
il y a une
pour,
suite logique,
pour Lyon,
l'Europa
c'est
League.
C'est une vraie belle compétition à jouer cette année, l'Europa League. Et je crois que pour Olas, elle est très, très, très importante, car c'est l'occasion d'aller loin en Coupe d'Europe et de se rappeler aux bons souvenirs de leurs supporters, de s'offrir une épopée comme s'est offert Marseille il n'y a pas si longtemps. Et moi je crois que cette année c'était quasiment la priorité du début de championnat de ne pas se trouer dans cette compétition.
Oui, parce qu'ils partent de tellement loin, que ce soit du côté tactique ou côté organisationnel, que bien sûr que l'Europa League ils doivent la jouer à fond et c'est la suite logique et c'est la transition logique.
Non mais c'est pas une petite compète, je trouve
que c'est bon, je vais pas sortir.
La France n'a jamais gagné.
Je vais pas te sortir, oui mais bien sûr, ouais. Après, mais il y a certains clubs, mais l'objectif majeur, c'est pas l'Europa League.
L'Europa League, c'est
la consolante, c'est la coupe des perdants. L'objectif, c'est la Ligue des Champions.
Wow,
c'est
Saint-Germain. Bien sûr, si tu la gagnes, t'es pas un perdant.
Bien sûr, l'Europa League en Espagne, c'est même pas un sujet.
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire? Tu parles de, le Barça n'a jamais gagné l'Europa League, le Real Madrid n'a jamais gagné l'Europa League.
Ah,
vous voyez ce que je veux dire?
85-87.
Non, mais je veux dire là.
Non, mais on a compris.
Je peux parler du Stade de Reims qui a fait des finales de Ligue des Champions dans les années 50. Là, je te parle du football moderne, à l'époque où les poteaux sont.
Mais il n'empêche que. Récemment, Chelsea l'a gagné.
Quand je
il y a des grands clubs qui ont fait les efforts.
Il y a des clubs qui ont besoin de s'appuyer sur l'Europa League pour avoir une transition.
Alisson est
Lyon, il y a même pas de, on parle même pas de Ligue des Champions. Il part de tellement loin tactiquement.
C'est pour ça que ça
se fait. Je m'emballe avec toi, Lou-Marie.
Allez, ça s'emballe un peu, c'est un dialogue entre les deux, hein,
ouais.
si on remarque.
En diagonale, on va essayer de le faire aussi avec le coach Tolé.
Toi et lui. Claude, il faut qu'on prenne la main pour le
coach,
parce qu'il nous domine un petit peu.
Voilà.
Non, mais il y a deux choses à dissocier, on l'a évoqué un petit peu autour de ce plateau, c'est le bilan comptable et le jeu. Dans le jeu, cette saison, pour l'instant, ce que fait Bosz, c'est bon. Honnêtement, on voit Paqueta qui brille, on voit une équipe qui joue au ballon, une équipe qui essaye des choses, et ça va se mettre en place petit à petit tout au long de la saison. Il faut le laisser travailler. On vient de commencer le championnat et je pense que ça va dérouler au fur et à mesure et ça va monter en puissance. Alors oui, le démarrage n'est pas bon. Oui, il y a une défaite contre Nice où ils mènent 2-0 et ensuite le score se fait renverser. Ils perdent
pas souvent comme ça dans ces situations-là. Ça arrive une fois dans la saison.
Ça arrive
un truc
une
comme
fois
ça.
Dans la saison.
Moi, mais je ne lis pas l'avenir, Alisson.
C'est ces défaites-là qui vont forger justement le caractère de cette équipe, lyonnaise.
Ouais.
Et pour moi, je suis d'accord avec toi, Lou-Marie, la Ligue Europa, surtout cette saison, et surtout cette saison pour les clubs français, c'est une ligue qui prennent au sérieux.
D'ailleurs, ça fait plaisir.
Ouais.
Tout ça pour dire que Bosz, c'est du travail de pro. J'essaie de lui trouver des qualités quand même.
Ouais, moi, des qualités.
Moi, je trouve qu'en termes de com, en tout cas, il nous l'a bien dit, Mourad, il y a vraiment un ton qui est différent, qui est intéressant. C'est quelqu'un qui s'explique sur ses tactiques, sur ses choix. Enfin, on n'a pas vu ça depuis longtemps.
Hein. Donc, c'est Olé, à la suite de Lou-Marie.
Après, il faut voir sur la durée, mais c'est vrai que sa communication pour le moment est bonne.
Non, mais les conférences de presse sont intéressantes à écouter, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entraîneurs.
Ah, bon. Oui, il faut qu'elle soit. Ouais, oui. Mais il faut qu'il soit à la fin, on regardera surtout ses résultats.
C'est ça.
En fait, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les supporters, il y en a pour les joueurs, il y en a. Donc, il rassasie un peu tout le monde.
Non, mais c'est toujours rassurant quand on a un coach par les tactiques. Ça veut dire que.
Sauf le nombre de points au classement.
Oui, c'est vrai. Mais Bielsa n'a pas une.
C'est peut-être la chose la plus importante.
C'est un des meilleurs. Hein.
Ça, c'est un avis. Je ne le partage pas forcément.
Allez. Le sujet suivant de l'émission Time Sport.
Time Sport. La troisième mi-temps.
Eh oui, au moins 6 absents pour ce fameux PSG Lille. 21h du côté de la Porte d'Auteuil. Non, leur entre qui est le Parc des Princes. Donc, Kylian Mbappé, excusez-moi. Tu me regardes comme ça, c'est avec sur un air dubitatif. Un peu de tristesse, voire de peur, le coach Tolé. Non? Pour ses Parisiens.
En absence du côté du PSG?
Ouais. Beaucoup trop. On en parlait dernièrement avec Kamel, Fallas, vous oubliez aussi Marion, c'est vrai. Sur cette infirmerie, les absences
ouais,
encore.
Et puis on entend souvent la même chose qui revient. Moi, j'ai entendu les dernières saisons que le staff médical n'était pas à la hauteur. Donc, visiblement, on va chercher les meilleurs. Visiblement, ils ont les moyens d'avoir les meilleurs spécialistes. Et tu te retrouves toujours avec une petite casquette de blessures. La vérité, c'est que tu en as aussi. Moi, quand je vois Marco Verratti, je suis désolé. Hein, ça va être depuis 3-4 saisons. Qui jongle entre ses séances d'entraînement, ses matchs et sa vie extrasportive qui est assez riche. Donc il y a un moment, quand t'es un sportif de haut niveau, le repos c'est primordial.
Il a montré qu'il a su rester professionnel avec l'équipe nationale d'Italie. Il a joué un mois complet sans blessure. Dès le premier match en phase de groupe, jusqu'au bout, c'est beaucoup avec l'intensité de la Coupe d'Europe. Donc je pense que Verratti peut être professionnel. Moi, je suis pas de ceux qui regardent un peu la vie privée, qui se disent que il manque d'hygiène de vie. Moi, je pense que ça compte, certes, mais on peut pas baser le projet du Paris Saint-Germain seulement autour de Marco Verratti.
Ouais.
Il y a d'autres joueurs aussi. Bien sûr qu'il aura des blessures musculaires.
Il y a pas mal de joueurs, Mourad.
On sait que les blessures musculaires sont dues à l'hygiène de vie, etc., etc. Mais il y a d'autres joueurs aussi qui doivent être dans la rotation et qui doivent aussi remplir le rôle de Marco Verratti à un certain
c'est
moment
le vrai meneur de
un
jeu
match
de cette
à l'extérieur
équipe,
en coupe par exemple vous voyez ce que je veux dire donc pas tout le temps accuser Marco Verratti
je ne parle pas de toi en général, je prends le pouls justement
des réseaux sociaux et de certains pseudo supporters
on n'accuse pas Marco Verratti, on regrette qu'il ne soit pas plus là et on ne va pas rentrer effectivement dans le débat de pourquoi il n'est pas là, pourquoi il est absent. Le vrai problème, c'est qu'il est absent très souvent et que pour moi concrètement c'est le vrai meneur de jeu de cette équipe, c'est le vrai organisateur. Et comment tu veux construire un jeu petit à petit sur sans ton dépositeur.
C'est pas le meneur de jeu.
Non, mais quand je dis meneur, pour moi, quasiment, c'est l'organisateur et le dépositeur du
pour
jeu.
Pour moi, le vrai meneur de jeu, et quand Pochettino l'aura compris, avec toute humilité, c'est Neymar le vrai meneur de jeu.
Mais pour l'instant,
il
ne joue pas comme un meneur, je trouve, Neymar. Enfin, assez peu au PSG.
Alors,
contre l'Uruguay, il a joué contre un meneur.
Moi, je dis juste que pour l'instant, celui qui organise le jeu, celui qui est le plus important dans la construction du jeu, c'est Verratti, donc faudra voir s'il est là plus souvent pour pouvoir construire ce jeu.
Je pense qu'il y a un véritable souci dans le staff médical du Paris Saint-Germain, c'est récurrent.
Oui.
Ça fait quelques années qu'on n'arrive pas.
Pas mal de blessures.
Que les joueurs retombent à chaque fois qu'ils reviennent deux semaines et ensuite tac pique dans la cuisse et ça retombe, ça repart pendant trois semaines. Donc voilà, c'est quand même un grand club. C'est le QSG. On est quand même dans le club de la capitale. Et là, il y a un problème fondamental, un problème que peut-être on voit pas ailleurs, en tout cas aussi de manière aussi récurrente. Donc il faut quand même se poser les bonnes questions.
Juste alors, une chose. Je sais pas si vous avez lu l'interview de Neymar aujourd'hui qui a été fait en
non,
septembre.
Moi j'ai vu la sortie de Thomas Tuchel.
Non, il y a un sortie de Neymar aujourd'hui qui est très important où il dit il est accompagné quotidiennement par un préparateur physique
et par
un médecin et par un kiné entre guillemets. Il dit qu'il peut rien faire de plus et qu'il sortait les soirs ou le lendemain il n'avait pas entraînement. Donc moi je suis d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus justement si ce n'est être accompagné au quotidien par les meilleurs spécialistes individuels au monde, que ce soit psychologique et physique, et en plus sortir le lendemain où il a pas d'entraînement. Donc je pense que ça va au-delà de ça. Je pense que les blessures font partie du métier aujourd'hui de par l'intensité du football. Aujourd'hui, le football d'aujourd'hui n'est pas le football de l'époque de Ronaldinho, n'est pas le football de l'époque du début des années 2000. Donc, on doit avoir un effectif comme le Paris Saint-Germain qui joue sur tous les tableaux, conséquent pour pouvoir remplacer les bons joueurs au bon moment. C'est tout.
Chez nos confrères italiens de la Gazzetta dello Sport, justement, Thomas Tuchel disait qu'il préférait entraîner Romelu Lukaku, l'international belge, que certaines stars du Paris Saint-Germain, dont Kylian Mbappé ou encore Neymar Junior. Il est plus facile d'entraîner Lukaku que Neymar ou Mbappé, je cite. Oui, le coach Tolé. Beaucoup trop de mauvaise ambiance. Voilà, enfin, avait raison.
Je au bout de ce qu'il a dit, c'est parce qu'il dit qu'il avait le sentiment de gérer la famille, de gérer l'environnement des joueurs. Chose qui est ingérable lorsque tu es. Il y a trop de monde autour.
Non, mais au-delà de ça, c'est une question d'ego. On sait que.
Ouais, mais il y a trop de monde.
Ouais, mais c'est une question d'ego.
L'ego, selon toi.
Et Kylian Mbappé ont pris une place tellement importante au sein du club.
Moi, je dirais qu'on leur a laissé prendre cette place.
Ça devient ingérable alors qu'un Lukaku.
On en revient toujours là. On en revient toujours. Enfin, j'en reviens toujours là depuis des années. Moi, mon problème au PSG, de l'extérieur, c'est la. c'est l'organisation de son, de sa tête, de sa présidence et de son institution.
Ça poserait problème et à Zidane, ça.
Et le problème, c'est que à partir du moment où les joueurs ont pris le pouvoir dans ce club, et je pense que c'est le cas depuis longtemps, en tout cas c'est ce que j'en constate et ce que j'en entends, eh bien ils font un peu ce qu'ils veulent. Et effectivement, comme disait Alisson, t'as les égos des uns et des autres qui prennent le pas sur le reste. Tant qu'il y a personne au-dessus, mais je parle même pas du coach parce que le coach y passe, c'est au-dessus de l'institution, quelque chose de plus fort, qui va taper sur les doigts, qui va dire stop quand il faut. Est-ce que
là t'enfonces des portes ouvertes, tout le monde le sait qu'il y a un problème d'organigramme, tout le monde le sait, que les joueurs sont au-dessus de l'entraîneur, que le président est en dessous de certains joueurs,
mais donc,
au niveau de l'organigramme tout est aligné, il n'y a plus d'institution, bien sûr il faut partir d'autre chose, mais qu'est-ce aujourd'hui, si le problème numéro un est les joueurs, il y a une revue d'effectifs à faire.
Bien sûr.
Tout simplement.
Mais je
pense que c'est pas un problème d'entraîneur parce que tous les entraîneurs sont passés, les saisons se suivent et se ressemblent. Peu importe l'entraîneur. D'accord? Et quand Nasser Khelaïfi descend à chaque fois dans les vestiaires pour parler aux joueurs, pour moi, c'est, voilà, c'est pas ça l'institution. Pour moi, la vraie définition de l'institution, c'est quand Chelsea gagne la Ligue des Champions en fin de saison et que Abrahamovic fait la rencontre de Thomas Tuchel sur la pelouse le jour J, alors qu'il lui ramène la Ligue des Champions. Ça, c'est la définition de l'institution, par exemple. Donc, faut remettre l'église au milieu du village ou la mosquée au milieu du droit, peu importe. Donc, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais à un moment donné, voilà, il faut remettre, rétablir l'organigramme et attribuer les bons rôles à chacun.
Beaucoup de blessés.
Pour blessés. Ils ont les moyens.
Ils ont les moyens. Aspetta, faut le rappeler.
Leonardo, déjà, il a rien à faire. C'est un emploi fictif pour moi, Leonardo. Leonardo, c'est un emploi fictif.
Aspetta, faut en parler, le mari Alisson.
C'est ce qu'il faut d'un point de vue médical.
Mais oui.
Mais le souci, et ça, tu le rencontres un petit peu partout, c'est que, ils ont en général eux-mêmes leur préparation, leur préparateur physique, leur médecin, leur truc, leur si le médecin qui est pas d'accord avec le médecin du club de la sélection.
Est-ce que tu dis, t'as les médecins fédéraux qui viennent se mettre là-dessus sur certains joueurs, c'est le bordel. Hein.
Ouais,
le
coach.
Institution en un mot. Voilà. Ouais, tout simplement, il faut peut-être comme au lycée ou comme au collège mettre un règlement intérieur. Et on repart comme un club professionnel.
Tu ne pourras le faire qu'à partir de la prochaine génération quand on aura enlevé plusieurs joueurs qui ont pris de mauvaises habitudes. Et ça sera la prochaine génération. Je pense que ce club-là, il faudrait qu'il gagne la Ligue des Champions avec cette équipe-là pour pouvoir la purger après et s'enlever cette pression et reconstruire ce du long terme.
C'est tout ce qu'on leur souhaite et c'est justement c'est ce qui fait que on a tous ces problèmes aujourd'hui parce que c'est ce que souhaite Nasser Khelaïfi. Il attend, il patiente,
il a toujours des problèmes.
Il pousse jusqu'au bout, mais à un moment donné, ça va craquer. On va avoir le plafond de verre.
On a toujours des problèmes au Paris Saint-Germain.
On a toujours des problèmes.
21h, passe à Lille ce soir.
Non, mais c'est ça.
Mais toujours, les problèmes sont là. On a Messi, on a Neymar, on a Kylian Mbappé tout de même. Un trio d'attaque infernal.
Ouais, mais bon, quand on a,
pas ce soir. Et peut-être on va avoir Zidane.
On a beau avoir les meilleurs éléments du monde, quand la mayonnaise ne prend pas, elle ne prend pas. On a parlé tout à l'heure de Marco Verratti. On a un problème déjà fondamental au milieu de cette équipe. Et ce qui n'arrange pas la chose, on a Marco Verratti de blessé. Donc voilà, il y a un problème. Il y a Neymar, Neymar qui est en méforme, qui est complètement à côté de la plaque, que ce soit psychologiquement ou physiquement. On a Kylian Mbappé, voilà, qui pour le coup est bon. Lui, on a Messi qui encore peine à trouver son rôle et sa place et son positionnement aussi au sein du jeu. Voilà, je peux creuser encore et encore .
Et Messi, il est pas
intéressant.
Je pense que le problème, c'est pas le positionnement de Messi. Je pense que c'est Pochettino qui a du mal à lui trouver un poste.
Mais
parce que Messi, je pense qu'il remplit sa fonction. Exactement. Non, mais je suis d'accord. Parce que Messi, il fait une saison pas trop mal.
Non, mais pour l'instant,
dans le jeu,
c'est même pas le
jeu,
problème. Hein, Messi,
dans
c'est
le jeu
pas
jusqu'à présent.
Du club,
t'as trop de meneurs de jeu potentiels dans cette équipe, en fait.
Non, mais tu mets pas Messi. Tu mets pas Messi sur la ligne, sur un côté, par exemple, à 34 ans.
Ça reste à la base des mecs qui, dans un collectif classique, ont toujours été les clés du jeu. Et c'est difficile pour ces joueurs de ne pas totalement les avoir, de devoir faire les efforts lorsque tu n'as pas l'habitude de l'effectuer. Et tu sens que t'as beau avoir ces trois gars.
Non, mais c'est pour ça qu'il faut un milieu compétent et il faut un milieu qui compense.
Ouais, mais qu'on n'a pas actuellement sur les
centres. Surtout que ce soir, c'est le retour de Renato Sanchez.
Même le meilleur au milieu de terrain du monde, si ces gars-là ne font pas les efforts, tu
vas tirer un coach. À Barcelone, quand on avait la MSN,
il y avait derrière, il y avait Xavi Iniesta.
Mais derrière, on avait un milieu solide.
Et les vrais meneurs, c'était Xavi Iniesta.
Qui grattait, qui faisait des
trucs.
Au-delà de récupérer. Non, mais tu parlais de coach, tu parlais de beaucoup de meneurs. C'est là où je suis pas trop d'accord. C'est qu'à un moment, au PSG, il y a des attaquants qui aiment bien avoir le ballon, mais ces mêmes joueurs, quand il y avait d'autres meneurs derrière eux. Xavi, Iniesta, c'était des vrais meneurs, c'était des vrais organisateurs. Ils étaient très contents de les avoir.
Donc c'est parce que quand t'as la possession de balle, t'as pas besoin de défendre.
Alors moral.
Et t'avais une philosophie. On va pas comparer le FC Barcelone.
Non, mais sans vouloir comparer, c'est juste pour
une des meilleures équipes de tous les temps. Ouais, le coach. PSG qui est construit.
Non, mais en fait, le problème c'est.
Là, t'as Idrissa Gueye, le ballon lui brûle les pieds, donc il va pas garder le ballon éternellement.
Mais il a fait son match de l'année. Ils ont fait un par saison.
Ouais, c'est exactement ça.
Il a fait contre.
À la récupération, il est incroyable.
Les métronomes, c'était vraiment. Enfin, il y a une vraie identité.
Mais de toute façon, c'est ce qu'on disait. C'est que concrètement, PSG, c'est du recrutement d'opportunités depuis quelques années. Plutôt que d'essayer de construire un projet de gens, ils disent voilà, il me faut tel genre de profil pour compléter l'effectif, pour jouer tel genre de football. Ils disent ah bah tiens,
Messi est
dispo. Tiens,
mais ils ont essayé.
Tiens,
mais ils ont essayé quand même.
Cette année, je ne suis pas du tout d'accord. Messi, c'est un coup d'opportunité.
Ouais. Ouais, vous voulez venir aussi.
Messi gratuitement. Non, tout
ouais,
monde,
voilà.
Tout le monde ne l'a pas démarché.
Messi, c'est un plan de carrière. C'est comme toi, une villa au bord de la mer. Messi, c'est le projet de Nasser Khelaifi depuis le début.
Non, mais on est d'accord. Non, mais c'est pas l'hypocrisie. Je dis juste. Mais c'est pas une histoire d'hypocrisie. C'est juste de dire que Messi, c'est pas. Je dis pas que c'est un problème. C'est juste que c'est pas le sujet. Mais c'est juste que malgré tout, aujourd'hui, j'aimerais bien savoir. Comment le PSG avait prévu de jouer avant la saison et comment il a prévu de jouer maintenant? Moi, je ne sais toujours pas.
Peut-être on va avoir la réponse de suite après la dernière pause. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On revient avec le Paris Saint-Germain qui rencontrera ce soir 21h du côté du Parc des Princes. Les Lillois, sans oublier aussi la Serie A et le Napoli.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM pour la dernière partie de cette émission avant le week-end, oui.
J'ai une information importante.
Quoi ?
Verratti de retour à l'infirmerie après 3 semaines de football.
Ah, Mourad !
Mais c'est ça. Moi aussi.
Le PSG.
C'est son cycle, 3 matchs, un match de blessure.
Toujours avec Alisson, Mourad, le coach étoilé et Louis-Marie. Justement, PSG face aux Lillois. Et les Lillois, ils sont là. Oui, Renato Sanchez qui revient, Mourad.
Ben Renato Sanchez au milieu. On sait que le problème est au milieu côté Paris Saint-Germain. Les Lillois espèrent aussi le retour en grâce de Burak Yılmaz qui a.
Il n'a pas l'air bien buts, mentalement quand même, hein, Burak.
Ouais, donc, c'est dur aussi parce que lui, il était annoncé du côté de l'OGC Nice. Je pense que son souhait numéro un, c'était de rejoindre Galtier, qu'il avait mis dans les meilleures conditions. Donc, il savait ce qu'il attendait en rejoignant l'OGC Nice. Là, en voyant arriver Gourvenec. Bon, il était un peu dans le flou, l'entraîneur, il est.
Puis il a 36 ans, il a plus beaucoup d'années devant lui. Hein.
Ouais, il a le même âge que Gourvenec, tu peux dire, mais il a fait une très bonne saison. Et lui, il est un peu dans le flou. Voilà, Gourvenec, c'est peut-être pas le management qui lui convient, c'est plus un meneur d'homme.
Il y a du management
passionné.
Chez Gourvenec.
Comment?
Il y a du management chez Gourvenec.
Non, mais ça, il y a un management peut-être light, mais il y a un management quand même.
C'est une catastrophe.
Non, mais après, on peut. Non, c'est pas vraiment une catastrophe. Je pense qu'il a des qualités d'entraîneur. Il a des qualités. Il a fait un bon parcours avec l'en avant Guingamp en Europa League, si je me souviens bien, si je me trompe pas.
Ça ne fait pas une hérodelle.
Après, c'est pas une foudre de guerre non plus. Il a été là.
Non, dans les choix tactiques et dans la construction d'effectifs, je le trouve très léger. Il y a plein d'exemples qui le montrent.
Le costume est trop grand, tout simplement. Tu lui donnes Bordeaux, je pense qu'il fait mieux que Petkovic, par exemple.
Alors, il est pas d'accord. Le coach est tollé, s'il vous plaît, messieurs, dames.
Bordeaux, le bateau est en train de couler depuis 10 ans. Tu connais aussi bien mieux le club que nous, donc c'est pas Gourvenec.
Il y a des décisions fondatrices qui ont été prises par Gourvenec. On pourrait y revenir, mais ça prendrait trop de temps. Non, mais ce que dire, c'est qu'il y a des choix stratégiques pris par Gourvenec. Qui ont beaucoup impacté le sport. Je peux juste te dire que quand t'as le choix entre Luc De Jong qui est prêt à signer, il te manque une pointe. T'as Luc De Jong qui est prêt à signer, qui a des. Il n'y a plus qu'à poser la signature.
Koundé, ils ont joué avec, lui, je crois. Oui. Ok, donc je continue.
Mais c'est pas lui. Tu prends Depréville à la place de Luc De Jong, faut pas t'étonner.
Non, mais c'est clair.
Je parle de deux joueurs qui sont en équipe de France et qui ont joué sous Gourvenec.
Mais c'est pas lui qui les a formés. Et d'ailleurs,
ils ont joué. Mais c'est avec lui qu'ils ont joué, non?
Pas tant que ça.
C'est lui qui les a fait signer.
Avec lui, regarde.
Tchouaméni, je crois pas qu'il ait beaucoup joué avec Gourvenec.
Pour en revenir, Gourvenec, là, il arrive. Vous connaissez le projet de Lillois en ce moment ou pas? Là, à Lille, il n'y a plus d'argent, ils sont endettés, pas moyen de recruter, ça c'est pas Gourvenec.
Ça, lui,
il
est arrivé. Oui,
tu parlais d'opportunité. Lui, Gourvenec, il a saisi l'opportunité d'arriver à Lille, qui joue la Ligue des Champions, qui est un club à la base structuré, mais qui tangue un petit peu, on en parle moins parce que c'est moins médiatique que Marseille et les autres. Mais Lille, c'est compliqué depuis l'arrivée d'Olivier Le Temps, on ne sait pas où ils vont au niveau du projet. On peut pas demander à Gourvenec qui n'a pas eu les moyens de dire qu'il a pas une communication, qu'il est pas bon. Il fait ce qu'il peut. Il pourrait faire beaucoup mieux parce que c'est vrai que l'effectif n'a pas changé. La majeure partie ont été champions de France.
Non, là d'accord. Je suis d'accord avec toi qu'il est pas dans une situation facile.
Il est dans le bon.
On peut pas tout de suite. Enfin moi,
pourtant il avait bien commencé.
Il a gagné le trophée des champions.
Ouais,
il avait très très bien commencé.
Ça m'avait fait plaisir.
Ouais, puis Cheka qui marque justement en trophée lors de cette finale du trophée des champions et ensuite il se blesse. C'était un joueur sur lequel il misait beaucoup au milieu de terrain avec Renato Sanchez. Renato Sanchez n'a quasiment pas joué de la saison. On connaît tous le syndrome des deuxièmes saisons pour ceux qui ont performé. Je pense notamment à Jonathan David, je pense notamment à Burak Yılmaz. Il y a aussi des Ikoné qui doivent prendre leurs responsabilités. C'est pas que la faute de Gourvenec. Non, Ikoné, non, il a été blessé, mais Ikoné, c'est un éternel espoir. À un moment donné, il faut qu'il se remette en question. Donc voilà, c'est pas que de la faute de Gourvenec. Il y a un changement au niveau du recrutement.
Moi, j'ai pas compris.
La politique du club a changé.
C'est tout.
Il y a un président qui vient gratter à sa porte. Donc voilà, Gourvenec, il est là. Il essaie de faire tant bien que mal. C'est pas le meneur d'hommes que Galtier. Bien sûr, il doit aussi insuffler de la confiance auprès de ses joueurs. Il y a quand même le costume est trop grand, tout simplement. Mais je pense que ça va venir grâce à une revue d'effectifs. Pas tout de suite.
Je pense que c'est pas évident dans un environnement déjà qui est assez compliqué. Et Galtier, il savait déjà 6 mois avant qu'il allait quitter le club parce qu'il s'entendait déjà plus avec les dirigeants. Donc moi, pour en avoir discuté avec des supporters lillois qui sont près du club, ils étaient en train de me dire faut absolument qu'on soit champion parce que les années qui suivent vont être extrêmement compliquées. L'environnement lillois est compliqué, donc que ce soit Gourvenec ou un autre.
Mais ça, tout le monde le savait, hein, c'est un peu comme Leicester quand ils arrivent au mois d'avril, au mois de mai, ils savent très bien qu'il faut aller au bout du parcours en première ligue parce que les saisons prochaines vont être très très compliquées parce qu'ils vont se faire dépouiller.
On sait que c'est délicat de confirmer aussi quand t'es Lille. Donc ce qui arrive actuellement aux Lillois et encore en Ligue des Champions, ils déméritent pas.
Non, ils déméritent
pas forcément, mais ils sont encore là. Donc
non, mais après c'est vrai qu'on oublie quand même que cette équipe, même s'il y a des absents, il y a un super effectif. Moi je trouve qu'à Lille on l'oublie, il y a quand même de très 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 bons joueurs. Et finalement, sur un match, ils peuvent être performants. Maintenant, il va falloir qu'ils retrouvent un peu ce qui faisait leur force l'an dernier. Je ne sais pas s'ils vont le retrouver, parce que ça viendra des leaders.
C'est Renato Sanchez qui faisait sa force. Là, on attend le retour de Renato
pas
Sanchez.
Pas que, il y a Yılmaz qui était sur...
Burak Yılmaz, il a quand même mis 3 buts. Là, avec Burak Yılmaz, il en a parlé, Gourvenec. Il est un peu frustré aujourd'hui. Il n'y a pas les ballons qui arrivent. Sheka est absent, Ikoné n'est pas au rendez-vous, donc à un moment donné il faut des meneurs de jeu pour alimenter les Burak Yılmaz.
C'était pas lui,
Yazici a totalement disparu, d'accord, alors que c'était un des meilleurs joueurs la saison dernière, que ce soit en compétition européenne ou en championnat.
On parle jamais qu'il y avait
Benjamin André, peut-être que la préparation tronquée, le fait d'être sur le banc en équipe de France, peut-être que ça a impacté ses performances.
Oui, ça impactera aussi. Avec ses absences.
Il faut prendre du recul, voilà.
On prend du recul, ça impactera peut-être ce soir le Paris Saint-Germain.
Positivement, tu veux dire, ou négativement?
Non, négativement.
Négativement, bien sûr. Ils font une remise en question à un moment donné. Et ils ont déjà battu le Paris Saint-Germain.
Bien sûr.
Voilà. Donc, je pense que facteur X, ce sera Renato Sanchez ce soir.
Ouais, pour terminer, les Lillois et le Paris Saint-Germain.
Lillois,
avec la dernière rubrique.
Le fait de jouer le PSG au Parc des Princes, ils n'auront rien à perdre. On sait qu'il y a un effectif de qualité. Et donc, ça ne m'étonnerait pas de voir un Lille plutôt emmerdant pour le PSG.
Il y a le gardien aussi, on en a pas parlé. Il y avait une vraie base.
Ça, y a un
avec
vrai
Mike Maignan aussi. Là, c'est un gardien. Il a une boîte de chaussures à la place des pieds.
Ah,
il a une mauvaise relance.
Tu peux pas arrêter, moi.
Il est très lent sur sa ligne, donc il a beaucoup.
C'est vrai que quand une défense
de dire
qui est rassurée par son gardien, ça change tout. Et la défense de Lille a été si forte l'an dernier parce qu'elle savait qu'elle pouvait compter sur le meilleur gardien du championnat quand il fallait.
Bien sûr.
Allez, on prend la direction de l'Italie.
La preuve.
Time Sport, le mode pressing.
La transition avec l'Italie. La preuve, Mike Maignan est co-leader justement avec l'AC Milan. Et c'est, même s'il est blessé en ce moment, c'est quand même un grand artisan du succès de l'AC Milan en championnat.
Et le Napoli qui ne tremble pas. Et oui, et Yacine nous le disait ça, qu'il fallait mettre une pièce aussi sur le Napoli cette saison. Napoli qui devance le Paris le Milan AC. Voyez le Milan AC Alisson en Serie A.
Malgré les difficultés économiques que traverse ce club du Napoli, il n'y a pas eu de recrutement cet été. C'est une équipe qui se montre très 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 solide en ce début de saison. Il y a eu quand même 9 victoires. Ce club qui joue en plus avec la manière.
Ouais.
Yacine qui me fait des signes.
Alors,
je
sais pas, tu le vois, Yacine?
Non,
je le vois pas dans ce studio.
Victoire,
je confirme, c'est 9 victoires.
9 victoires
et un match nul face à la Roma.
Exactement.
Qui prouve que José Mourinho ne fait pas du si mauvais et travail que ça avec la Roma.
Ils se sont fait balayer par justement le Milan AC cette saison. Donc, 9e victoire, je confirme, Yacine, avec l'appui de Mourad.
Ouais.
Voilà, c'est une équipe sur laquelle justement il faudra mettre une pièce. Il faudra compter parce que ça envoie et ça envoie de la plus belle des manières.
Ouais, le mari.
Est-ce que finalement, c'est effectivement, je suis assez d'accord avec le titre que tu mettais, c'est que est-ce que c'est pas leur chance cette année au Napoli, parce que finalement il y a une espèce de flottement dans le championnat italien avec cet Inter qui était impressionnant l'an dernier, mais qui a un tel problème économique qu'il a dû vendre certains de ses meilleurs joueurs et de ses meilleurs atouts, et de l'autre côté la Juve qui est un peu en mini-crise quand même, faut dire ce qu'il y est. Hein. Ils ont perdu Cristiano, ils ont du mal à se reconstruire.
Ils ont changé d'entraîneur aussi.
C'est compliqué la Juve en ce moment cette année. C'est pas le monstre qu'on a connu.
Il reste le Milan.
Mais le Milan qui n'est pas un très très grand Milan, qui est un joli Milan, mais c'est pas un très grand Milan. Donc
c'est un Milan solide,
comme tu le dis. Mais finalement, la Napoli c'est solide. C'est une équipe qui se construit depuis plusieurs années. Ils n'ont pas recruté cet été, mais ils avaient recruté les années précédentes. Et surtout, ils n'ont pas beaucoup vendu. Ils ont surtout toujours leur défense avec Koulibaly qui reste. Même si on en parle moins, parce qu'il est moins à la mode, mais il reste un des meilleurs défenseurs du monde.
Ça reste le rock de la Serie A,
mais
c'est sûr.
C'est des effets de mode. Il y a 3 ans, on parlait de lui partout. Maintenant, on en parle un peu moins.
Il n'a pas oublié d'être
un des meilleurs du monde.
Là, on parle beaucoup de la défense. On parle du fait qu'ils ont encaissé très peu de buts. Je crois que c'est la meilleure défense de Serie A.
Mais tu parlais
aussi de la qualité du jeu. On a 3 buts. C'est la qualité de jeu. C'est un jeu très fluide, agréable. Ils ont aussi Mène derrière. Ils ont beaucoup de palettes.
Parce que la continuité.
Ils ont un vivier de jeu.
Ils n'ont pas beaucoup recruté, donc
il y a aussi la patte Spalletti.
Ils savent ce qu'ils font.
En fait, Spalletti, il a ajouté un peu de pragmatisme. Avec Sarri, Napoli était taxé
de romantique, du
beau jeu à chaque fois. Donc Napoli, c'était le champion du beau jeu, etc. Là, ils mettent un peu de pragmatisme. Ça va droit au but. Vous avez vu le but de Fabian Ruiz, l'Espagnol, qui était incroyable.
Très bon joueur, d'ailleurs, Fabian Ruiz.
Petit clin d'œil aussi à Fawzi Goulam, qui a fait ses retours sur les terrains du côté du Napoli après de longs mois d'absence. Donc voilà, il y a au-delà de la défense, il y a le jeu, il y a les atouts offensifs, il y a la profondeur de banc. Donc ils ont tout aujourd'hui.
Et puis Koulibaly qui est là depuis cette saison, qui est un des meilleurs défenseurs du monde.
Et on sent que Koulibaly, justement, c'est ce que disait Louis-Marie. Et là justement,
je ne m'écoute pas visiblement. Non mais
tout à fait.
Je parle beaucoup trop, c'est pour ça.
Je confirme.
Non mais là on sent que Koulibaly a envie de sortir par la grande porte, puisqu'à chaque fois il a prolongé, il est resté. Il avait des propositions de Liverpool, de Liga, d'autres clubs de première ligue, du PSG aussi. Mais à chaque fois, il a toujours été fidèle au Napoli. Donc je pense que là, partir sur un Scudetto, je pense que ça pourrait être le meilleur moment. Et pourquoi pas rejoindre le Paris Saint-Germain et remplacer, je dirais pas la fraude Kimpembe, mais remplacer quelqu'un de plus serein.
Voilà. On est un peu dur.
Pour ne pas citer nom.
Mais bon. Non, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est peut-être l'année. Après, j'ai envie de dire, peut-être aussi l'année du Milan pour revenir au top. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer. La Juve peut se reconcentrer. Ils ont quand même un bel effectif.
Il y a un inversement des statuts en Serie A en ce moment. Il y a les gros clubs qui sont en fin de cycle, qui sont renouvelés. Ça va prendre un peu de temps. Et là, c'est le moment justement pour se faufiler et aller essayer de jouer le titre.
C'est un championnat qui va jouer
au moins le top 3 de la Ligue pour se qualifier en Ligue des Champions directement.
Un championnat comme la Ligue 1 l'an dernier, où à 5 journées de la fin, tu as 4 clubs qui jouent le titre.
Moi, j'en vois moins. Moi, je pense.
J'en vois 3 moins.
Voilà. Moi, je vois en tout cas l'AC Milan et le Napoli. Je vois pas la Juve.
Ouais, la Juve, ils seront
L'Inter,
pas loin parce
que
c'est la Juve.
C'est trop instable.
Ouais.
Voilà. Donc, moi, j'en vois 2. Je vois une course en duo.
Pour moi, ces 4 équipes auront leur temps fort et leur temps faible parce qu'elles sont pas assez solides. Même le Napoli qui joue bien, même le Milan qui joue bien. Je les vois bien avoir tous une période pendant 1 mois ou 2 où ça va moins bien et qui laisse revenir les autres. Je pense qu'il n'y a pas cette équipe qui va être très régulière toute la saison et mettre tout le monde d'accord. Donc, on peut très bien se retrouver avec un sprint très intéressant à 10 journées de la fin.
Ils ont pas l'intensité de la Ligue des Champions, déjà, côté Napoli. Ils ont la profondeur de banc.
Qu'il faut un grain de sable pour dérégler une machine, la mauvaise blessure du mauvais joueur, Fabien Ruiz qui se blesse un peu.
Là, ils sont sur 10 matchs. Ils sont sur 28 points, je crois. Ils sont sur 10 matchs sans défaite. On est au mois de novembre, quasiment.
Toujours invaincus.
Ils sont toujours invaincus. On est au mois de novembre. Donc ça va très vite.
C'est une machine qui tourne très bien. Attention, Louis-Marie. Parce que tu dis un grain de sable, etc., etc. Mais c'est quand même une machine qui fonctionne.
Tu sais que les F1 sont les machines les plus faciles à dérégler.
Non, mais peu importe. Mais là, c'est une machine qui fonctionne très, très bien. Et Mourad le disait, il y a une profondeur de banc au Napoli, donc faut pas négliger cette profondeur de banc. Et je pense que en cas de blessure majeure d'un joueur, un remplaçant fera très 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 bien l'affaire.
Pour le titre.
Marie, je lève la main quand même.
Un minimum de bien-séance,
parce que je pense à un argument très très important.
Alors,
il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive au mois de janvier. Koulibaly, il est pas français. Osimhen, il est pas français. Anguissa, qui excelle au milieu de terrain, il n'est pas français non plus. Donc peut-être que ça peut les desservir. Arriver au mois de janvier, février, peut-être que ça peut impacter négativement le Napoli. Voilà.
Pour le Naples. Ouais. Parce que là, tu viens de citer quasiment une colonne vertébrale. Hein.
Là, c'est la colonne vertébrale du Napoli, c'est clair.
André Franck.
Alors avant de terminer.
Anguissa, lorsqu'il est passé à Marseille.
Magnifique joueur.
Il y avait certaines moqueries assez faciles, comme souvent des joueurs de son profil.
Oui.
Et il est en train de prouver que c'est un milieu de terrain.
Bien de tous.
Il l'a montré à Villarreal. Là, il confirme Napoli.
Elle a été taxée de bourrin ici en Ligue 1. Moi, à Villarreal, il était au-dessus techniquement. À Fulham, il a été meilleur dribbleur en première ligue, même s'ils ont été relégués. Là, à Naples, ils sont fous de lui.
C'est qu'individuellement, c'est pas mal, en fait, hein. Il est en train d'exploser. Et je me souviens à l'époque où, alors c'était une opportunité pour l'OM lorsqu'il part pour 30 millions. Mais j'avais dit que le départ de Anguissa allait dérégler le milieu de terrain. Strootman est arrivé, ça a été compliqué.
Bah, remplacer Anguissa par Strootman.
C'est juste un autre profil, ouais, quand même. Exact. Du coup.
Non, bah, en fait, sur le papier, ça se ressemble.
Un mec de 21 ans qui sortait d'une finale de Coupe d'Europe, qui avait une marge de progression. Mais on a un peu du mal avec des profils comme Anguissa, mais il est en train de confirmer.
En tout cas, ils l'ont bien vendu, l'OM. Donc,
il en faut dans toutes les équipes. Voilà.
Selon lui, Marie. Alisson, pronostic ce soir, PSG face aux Lillois.
2-1 pour Paris.
2-1 pour le Paris Saint-Germain. Mourad.
Les compos, Bilal, avant de donner mon pronostic, j'aimerais bien avoir
J'ai plus le temps pour la compo.
Ah, c'est dommage. Désolé. Je vais dire 1-0 pour le LOSC alors.
1-0 pour le LOSC.
But de Renato Sanchez.
Louis Marie.
1 partout.
1 partout. Et le coach Tollet.
Victoire 2-0 du PSG.
Merci à Louis Marie, au coach Tollet, à Alisson ainsi qu'à Mourad de m'avoir accompagné. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine à partir de 20h. Et la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Bon week-end à toutes et à tous.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.